Au chapitre 31 du livre du prophète Jérémie, nous lisons les versets 15 à 17. Ainsi parle le Seigneur. On entend des cris à Rama, des sanglots amers. C'est Rachel qui pleure ses fils. Elle refuse de se laisser consoler au sujet de ses fils, car ils ne sont plus. Ainsi parle le Seigneur. Cesse de sangloter, sèche tes larmes. Qu'elle y aura une récompense pour toutes tes actions. Déclaration du Seigneur. Ils reviendront du pays de l'ennemi, il y a de l'espoir pour ton avenir. Déclaration du Seigneur. Tes fils reviendront dans leur territoire.
Et dans l'Évangile selon Matthieu, nous allons lire le chapitre 2 en entier. Après la naissance de Jésus, à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent, « À Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par l'entremise du prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante dans l'assemblée des gouverneurs de Juda, car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations précises sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi je vienne me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Or, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement, avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
Après leur départ, l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph et dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à nouvel ordre, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire disparaître. » Joseph se leva, prit de nuit l'enfant et sa mère, se retira en Égypte et y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arrive afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Quand Hérode se vit joué par les mages, sa fureur fut extrême et il fit supprimer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants, elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph en Égypte, et dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et rentra au pays d'Israël. Mais quand il apprit qu'Archélaos était devenu roi de Judée, à la place d'Hérode, son père, il eut peur de s'y rendre. Divinement averti en rêve, il se retira en Galilée, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qu'il avait été dit par l'entremise des prophètes. Il sera appelé Nazoréen.
Alors ces textes que nous avons entendus aujourd'hui sont longs, et en particulier bien sûr tout ce deuxième chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Et d'habitude on ne lit pas le chapitre en entier pour différentes raisons. Les épisodes qui composent ce chapitre, on les lit, on les entend et même on y pense souvent séparément. La visite des mages, la fuite en Égypte et ce qu'on appelle le massacre des innocents. Peut-être tout simplement parce qu'ils ont été représentés par tant de peintres et de manière forcément indépendante, tous ces épisodes, on a tendance à les imaginer comme des épisodes qui se succèdent, mais qui n'auraient pas de rapport les uns avec les autres. Et aujourd'hui, pour cette fête de la visite des mages à Jésus, cette fête qu'on appelle l'Épiphanie, ce moment où Jésus apparaît, leur apparaît, comme la manifestation de Jésus-Christ, déjà prêtre, prophète et roi. C'est le sens des cadeaux, hein, d'après les pères de l'Église et d'après Luther. L'encens pour la divinité, la myrrhe pour l'annonce de la mort, parce qu'on s'en sert pour embaumer les cadavres, et l'or pour la royauté. Donc, à l'occasion de cette fête, eh bien, je me suis demandé pourquoi nous aimons tellement cette fête. Qu'est-ce que cette histoire nous dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Et c'est à cela que nous avons réfléchi, comme vous l'avez compris, ce matin, avec les jeunes catéchumènes. Est-ce qu'elle nous aide à vivre? Est-ce qu'elle nous aide à croire? Et comment? Et donc, si je vous ai proposé l'ensemble du chapitre, c'est parce qu'il me semble qu'en regardant l'ensemble, justement, et en particulier la suite des événements, eh bien, peut-être ça pourra nous aider à répondre un peu aussi, donner une autre réponse à cette question. Alors, pour commencer, avant ça, je voudrais faire deux remarques. La première, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, malgré quelques incohérences chronologiques, les références historiques de ce chapitre sont sans doute plus solides que nous l'imaginons. Hérode le Grand, on le sait, était un tyran. Et comme tous les tyrans, bien sûr, il est paranoïaque. Et même si on n'a pas trouvé d'autres récits du massacre, de ce massacre qu'on appelle le massacre des innocents, et la plupart du temps, bien sûr, pour avoir une validité historique, il faut au moins deux sources, mais on n'a pas trouvé d'autres récits précis de ce massacre, mais une tuerie d'enfants dans un village c'est tout à fait vraisemblable, pour ne pas dire habituel. Quant à son fils Archélaos, comme il en avait plusieurs, son fils a hérité de moins de territoires que lui. En particulier, il ne régnait pas justement sur la Galilée. Archélaos, par contre, a été aussi tyrannique que lui, plus peut-être. Et en plus, c'était un si mauvais gouverneur qu'au bout de 9 ans, l'empereur Auguste a fini par l'envoyer s'en débarrasser, tout simplement, après ça. Il l'a envoyé en exil à Vienne. Pas Vienne en Autriche, hein, notre Vienne, dans la vallée du Rhône, au sud de Lyon. Quant aux mages, ces magiciens, eh bien, pourquoi pas? Des magiciens, des vrais savants à l'ancienne, des astrologues, ceux qui observent les étoiles, qui font des présages, eh bien, on pense que c'était peut-être des astrologues venus de Babylone, là où de nombreux juifs vivaient, dans l'attente du Messie. Et il est très probable que ces astrologues partageaient cette attente, ou du moins qu'ils en avaient entendu parler. Et nous avons également dit ce matin que c'est l'époque, pas exactement, ça ne correspond pas à l'année exacte, mais pensons quand même que tous ces évangiles sont écrits sur des souvenirs, des notes prises bien après. Donc c'est l'époque aussi d'une comète. Voilà, je ne dis pas que c'est l'étoile, je ne dis pas que la comète s'est arrêtée au-dessus de l'étable, mais c'est l'époque où est passée une comète. Tout ça pour dire que quand même, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et même si ce n'est pas l'essentiel, bien sûr, cette histoire n'est pas purement imaginaire. Et ma deuxième remarque, c'est que, il me semble, notre foi et notre histoire chrétienne doivent beaucoup, franchement, on s'en rend compte dans tout le deuxième chapitre, dans le premier chapitre bien sûr, mais aussi dans tout ce deuxième chapitre, doivent beaucoup à un homme souvent méconnu. Un homme, franchement, d'un grand cœur, d'une grande intelligence et surtout d'une grande indépendance d'esprit. Quelle que soit l'origine de ses rêves, de ses visions, de ses voix intérieures, un homme qui a su les entendre et les écouter, un homme qui a décidé, contre tous les préjugés et les traditions, d'épouser une jeune femme enceinte et d'élever son enfant, un homme qui s'est plié aux obligations du recensement, mais qui a vu ensuite venir le danger et qui a choisi de renoncer à son modeste confort personnel, à la sécurité qu'il pensait peut-être avoir, pour fuir. Alors sans doute pas tout seul, hein, cette histoire de fuite en Égypte, on l'imagine toujours, le couple avec l'enfant tout seul, mais non, on sait qu'il y avait de nombreuses familles qui fuyaient en Égypte. Donc de fuir avec d'autres familles, mais pendant qu'il en était encore temps. Et ça, c'est pas donné à tout le monde de prendre cette décision pendant qu'il est en est temps. De fuir pour que sa famille échappe au massacre redouté. Un homme qui, même au retour, alors que le danger semblait écarté, a compris que le fils d'Hérode ne valait pas mieux que son père et a préféré donc s'installer avec sa famille en Galilée, c'est-à-dire dans une province qui échappait justement à l'autorité d'Archélaos. Alors bien sûr, tout ce deuxième chapitre de Matthieu, on l'entend, c'est répété à plusieurs reprises, ce chapitre tend à nous montrer, et pas seulement à nous, à montrer à toutes les générations de chrétiens depuis 2 millénaires, que ces décisions de Joseph, puisque bien sûr vous avez compris que c'est de Joseph que je parle, ces décisions de Joseph répondaient à la volonté de Dieu, qu'il s'agissait d'un accomplissement des anciennes prophéties, et y compris, on l'a entendu, celle de Jérémie concernant Rachel. Mais cela ne nous empêche pas de reconnaître les qualités très humaines et plutôt inhabituelles de ce personnage qui disparaît ensuite. Ce personnage fondamental, et en particulier, bien sûr, dans le chapitre qui nous intéresse aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai voulu lui rendre ce petit hommage inattendu. Alors, quand j'ai commencé, bien sûr, à réfléchir à la question qui nous préoccupe ce matin, à savoir, pourquoi aimons-nous tellement cette histoire? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? J'ai pensé à 2 choses. La première, c'est justement, et on l'a déjà dit, que la visite des mages se déroule dans un environnement menaçant, un contexte d'oppression et de mort qui se concrétise d'ailleurs immédiatement. Même si Jésus en réchappe, il est bien le seul. Et d'ailleurs, certains se sont étonnés que Matthieu raconte ce massacre de manière aussi froide, presque factuelle, parce qu'en réalité, bien sûr, ce qui compte pour lui, ce n'est pas le massacre, c'est que Jésus en est réchappé, que les mages, divinement avertis par leur rencontre avec Jésus, les protégeaient. En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Matthieu le raconte avec une certaine froideur, mais la scène elle-même est absolument déchirante parce qu'elle est commentée dans le texte de Matthieu par le prophète Jérémie avec les hurlements de désespoir de Rachel. Et nous avons vu avec les jeunes qu'elle ne veut pas être consolée. Cette souffrance absolue, ce refus de toute forme de consolation, c'est ce que le peintre Nicolas Poussin a essayé de représenter. Et bien sûr, c'est ce qui nous frappe le plus. Et c'est aussi un problème en français, parce qu'en français, le nom « consolation », le verbe « consoler » peuvent avoir quelquefois une connotation un peu mièvre, un peu superficielle, comme si on essayait de nous faire croire que tout va s'arranger. Un peu comme Jérémie qui annonce la consolation et le retour des fils d'Israël quand rien, à ce moment-là, ne permet de l'espérer. Et je pense que c'est là une des questions. Dans cet environnement, et il n'est pas nécessaire de rappeler à quel point il est semblable à celui qu'on trouve dans beaucoup d'endroits du monde aujourd'hui, bien sûr. Dans cet environnement, quelqu'un refuse la consolation. Question, pourquoi refuser la consolation? Et les jeunes ont très bien dit qu'une des raisons, c'était intéressant, j'ai entendu, ça se fait pas. Ça se fait pas parce que c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien ? C'est pas bien parce que, d'une certaine manière, être consolé, ce serait accepter et donc moins aimer la personne qu'on a perdue. C'est aussi ça, un peu, qu'il y a derrière, dans ce refus de la consolation. Donc c'est pour ça qu'il faut du temps, pour accepter, d'une certaine manière, que la consolation ne soit plus vécue comme une culpabilité. Rachel refuse la consolation. Est-ce que c'est aussi parce que, tout simplement, elle n'y croit pas ? Elle ne croit pas, elle ne croit plus que Dieu peut supprimer la souffrance ? Eh bien, c'est un sentiment que nous pouvons partager. Nous ne sommes pas, heureusement, amenés le plus souvent à partager l'expérience de Rachel. Mais nous pouvons partager ce sentiment. Et en particulier, après avoir lu l'ensemble de ce deuxième chapitre de Matthieu. La naissance du Christ, nous pouvons nous dire qu'elle n'a rien changé, ni à l'oppression romaine, ni au complot d'Hérode, ni à la tuerie qui a suivi. Et encore une fois, le parallèle avec les souffrances de notre époque est évident. Alors, dans ce contexte, dans le contexte de ce chapitre, comme dans notre contexte actuel, la banalité d'un discours consolateur peut même devenir intolérable. Et pourtant. Alors, pendant que je préparais cette prédication, le titre d'un livre m'est revenu en mémoire. C'est un texte très court. Un texte qui a été publié une première fois au début des années 1950 par un écrivain suédois qui s'appelle Stig Dagerman. En fait, c'est un petit livret. Et j'espère que vous ne m'en voudrez pas de ce détail personnel. C'est un petit livret qui m'a accompagnée pendant de nombreuses années de ma vie. Un livret qui a été publié en français, je suppose, dans les années 80. Et c'est un livret que je suis allée rechercher hier sur mes étagères et que j'ai fini par retrouver. Je l'avais acheté à cause de son titre. Et c'est bien sûr ce titre qui m'est revenu en mémoire en pensant à Rachel. Le titre, c'est « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». C'est un beau titre. Eh bien, il me semble que d'une certaine manière, avec ce titre, nous sommes exactement dans la problématique de l'épiphanie. Il s'agit de notre besoin de consolation, mais au sens noble du terme, pas une consolation mièvre ou culpabilisante, encore moins, ni évidemment un discours superficiel, pas l'opium du peuple, un opium qui nous ferait accepter toutes les souffrances en vue d'une récompense dans l'au-delà, on a dépassé ça. Non, une consolation noble et lumineuse, une consolation présente au cœur même de la souffrance humaine comme justement une lueur dans cette étable obscure. Parce que c'est devant cette lueur, à la fois fragile et royale, que les mages viennent s'incliner. Et pour comprendre le sens de leur démarche, eh bien, nous pouvons même nous appuyer sur le texte grec. C'est un double mouvement dans le texte grec. Il dit mot à mot, tombant, ils se prosternèrent devant lui. Tombant, ils se prosternèrent devant lui. C'est-à-dire que c'est un mouvement spontané en deux temps. Ils tombent et en tombant, ils acceptent d'être consolés. Et pendant qu'ils sont prosternés, peut-être allongés, ils sont déjà avec le Christ et donc ils peuvent enfin vivre cette consolation que l'humanité, nous le savons bien, recherche depuis toujours. Et en même temps, nous le savons bien aussi, refuse depuis toujours. Comme Rachel. Et donc, je crois qu'au fond, si nous aimons ce texte, ce récit de la visite des mages, c'est en partie, en tout cas, parce que nous pouvons nous projeter en eux. Nous nous mettons à leur place. Et malgré nos limites, malgré notre condition humaine et ses insupportables souffrances, malgré Rachel, malgré aussi nos contradictions qui nous font à la fois rechercher et refuser la consolation, nous sommes avec les mages et nous pouvons, le temps de ce récit au moins, renoncer à nos défenses. Nous pouvons tomber avec eux devant l'enfant, prêtre, prophète et roi. Et avec eux, nous pouvons accepter d'être consolés. Je pense que nous avons besoin des mages, comme eux avaient besoin de l'étoile, pour nous déplacer, pour nous indiquer le chemin, quand nous cherchons le Christ, et surtout pour nous montrer comment l'aimer. Et je vais encore laisser la conclusion à Stieg Dagerman, maintenant que je l'ai ressorti de mes étagères. Et pourtant, ce pessimiste athée du XXe siècle, très pessimiste et très athée, qui parlait pourtant si bien de notre besoin de consolation. Et je vous propose qu'on l'écoute ensemble pour que Melchior, Gaspard et Balthazar nous accompagnent lorsque, comme eux, divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, nous repartirons avec eux par un autre chemin. Telle est ma seule consolation. Je sais que les rechutes dans le désespoir seront nombreuses et profondes, mais le souvenir du miracle de la libération me porte comme une aile vers un but qui me donne le vertige. Une consolation qui soit plus qu'une consolation et plus grande qu'une philosophie, c'est-à-dire une raison de vivre. Amen.